Radio Orient présente Pluriel. Pluriel animé par Loïc Barrière.
L'invité de Pluriel est Ergun Toparslan, vice-président et porte-parole de Territoires de Progrès. Bonsoir.
Bonsoir à tous.
Alors, le gouvernement a détaillé son plan de sobriété énergétique avec ce spot publicitaire pour inciter aux éco-gestes « je baisse, j'éteins, je décale ». Il va donc falloir éteindre ses appareils ou réduire sa consommation. Est-ce que ces conseils peuvent permettre à la France de faire face à l'hiver en période de crise énergétique ?
Oui, car nous pensons que si on réduit notre consommation d'énergie de 10%, on pourra passer tranquillement les pics de besoins énergétiques pour cet hiver-là. Et du coup, ce message-là, avec son impact également en termes de communication, qui fait que c'est un message plutôt simple et clair, nous permettra, d'après nos projections, de passer l'hiver assez sereinement.
Avec donc des messages aussi à la télévision, où on saura en temps réel s'il y a assez d'électricité et s'il faut de temps en temps réduire sa consommation de manière exceptionnelle.
Oui, et dans tous les cas, il faut que je pense que de façon durable, qu'on s'habitue à vivre de cette façon-là, à consommer moins d'énergie. Le monde dans lequel on se projette avec la consommation des énergies fossiles qui sont évidemment limitées sur notre planète nous force, nous imposera de toute façon à aller vers de la sobriété. Aujourd'hui, un contexte international fait que on va devoir passer par cela. Et d'un point de vue évidemment écologique, nous on se satisfait également que des dépenses d'énergie superflues peuvent être maîtrisées et mieux gérées. C'est beaucoup de la pédagogie qu'il faut là-dessus, parce qu'en réalité, très peu de monde connaissent suffisamment ces informations-là. Par exemple, le fait d'avoir une box internet qui tourne toute la nuit, l'intérêt est assez limité en termes d'utilisation, mais l'impact énergétique est assez important, et je pense que à force de marteler ces messages-là, et en donnant en toute transparence les niveaux de consommation d'énergie, d'électricité, etc., on permettra d'avoir un engouement majoritaire au sein de la population.
Alors, le gouvernement, Ergun Toparslan, va simplifier les aides pour sauver l'industrie face au coût de l'énergie. Vous avez vu que les petits commerçants aussi s'inquiètent du montant de leurs factures. Le gouvernement sera attentif à tous les secteurs de la société, les ménages, mais aussi les PME et l'industrie.
Le gouvernement était intervenu, notamment, y compris lors de la dernière crise sanitaire, où l'impact vis-à-vis de nos commerces était très important. Ça a été l'intervention la plus importante en Europe et l'une des interventions les plus importantes à l'échelle de la planète d'un État pour accompagner ces entreprises. On connaît l'absolue nécessité d'accompagner nos entreprises parce que c'est elles qui créent de l'emploi, qui créent du coup du pouvoir d'achat pour nos concitoyens. Et donc le gouvernement sera au rendez-vous comme il l'a été jusqu'à maintenant. On peut le comparer par exemple avec des pays comme la Belgique où les factures d'électricité sont x4, x5 pour les commerçants. Aujourd'hui, on essaie de le limiter au maximum auprès des commerçants français. Donc tout ça dans un contexte global d'inflation qui est moins importante dans notre pays, le gouvernement va répondre présent avec des messages et des actes forts, directs, concrets, dans l'intérêt de nos commerçants.
Il faudra aider davantage les collectivités locales. Vous avez sûrement entendu le maire de Neuilly-sur-Marne s'inquiéter de la hausse des coûts de l'énergie dans sa ville.
Oui, il faut également que nos collectivités locales fassent cet effort de sobriété. En réalité, pour être tout à fait honnête, ça fait un petit bout de temps que les collectivités locales font beaucoup d'efforts, et on peut le constater. De nombreuses villes avaient déjà fait des efforts pour limiter leur impact de consommation d'énergie avec la fermeture des éclairages publics. Il faut continuer dans ce sens-là. Il faut aller également vers de la meilleure isolation pour les établissements publics, notamment de nos collectivités territoriales. Et actuellement, à l'Assemblée nationale, il y a également des négociations, notamment pour ce qui concerne le budget qui va vers nos collectivités territoriales, qui sera à minima au même niveau qui était celui de l'année dernière, sachant que celui-ci était une progression très importante de 13%. Mais nos collectivités territoriales ont toujours joué le jeu et je ne doute pas que ça va continuer. Mais aujourd'hui, l'effort, il doit être vraiment dans toutes les strates de la société, les entreprises, collectivités locales, individualités. Et c'est ensemble qu'on aura surmonté ce défi.
Ergun Toparslan, après la crise sanitaire, les Français n'ont pas vraiment eu le temps de souffler. Inflation, pouvoir d'achat en baisse, pénurie d'essence, on l'a vu encore ce week-end. Est-ce que vous craignez finalement que tout cela ne débouche sur une crise sociale? On est 4 ans après les Gilets jaunes et la colère pourrait à nouveau éclater.
On constate, et d'ailleurs ça a été dit plusieurs fois lors de la campagne présidentielle par le président de la République, les candidats, que les instabilités structurelles que connaissent notre monde font qu'on a des enchaînements de crises. Et tout nous montre qu'on aura, on va avoir une continuité d'enchaînement de crises. Et c'est d'ailleurs un peu pour ça, avec le comportement, l'attitude de Emmanuel Macron lors de la crise sanitaire, je pense que les Français lui ont donné également ce gage d'une certaine continuité dans la gestion des crises au président de la République. D'ailleurs, pour donner un avis politique, on peut voir aussi que les législatives qui ont suivi ont un peu pondéré cela. Mais en réalité, on va être confronté à cela, les défis structurels qu'on connaît, environnementaux, sociétaux, démographiques, financiers vont venir, socialement également, parce que on va avoir d'un côté des pays qui vont s'en sortir un peu mieux que d'autres, et des inégalités importantes, y compris à l'intérieur de l'Union européenne, qui vont nous refaire face. Mais le tout est que les gouvernements, dans leur responsabilité, agissent en conséquence. Et c'est la ligne de conduite du président de la République et du gouvernement. Maintenant, il faut également se dire les choses peut-être de façon assez crue. C'est ce qu'a fait le président de la République en disant que c'était la fin de l'abondance, mais on est dans un monde qui ne sera plus celui d'avant.
Est-ce que c'est le bon moment pour lancer le projet de réforme des retraites avec un départ à 65 ans quand vous voyez les Français finalement inquiets pour leur fin de mois ?
En réalité, je crois que c'est jamais le bon moment pour faire un projet de réforme des retraites quand ça a été amené, y compris sur le quinquennat Hollande. Ça a été très décrié, c'était pareil pour Nicolas Sarkozy dans mes premières années de militantisme. Mais la réalité, c'est que l'orientation démographique de notre pays va nous imposer d'une façon ou d'une autre. Maintenant, le ministre du Travail, Olivier Dussopt, est aux manettes avec les organisations syndicales. On ne peut pas non plus être exclusivement figé sur l'âge de départ à la retraite. On ne peut pas non plus, de façon tout à fait honnête, avoir un âge de départ à la retraite qui soit toujours plus bas que ceux de nos voisins. À un moment donné, c'est une situation qui n'est pas tenable. Il faut avoir un discours de vérité, mais il faut avoir un discours et une négociation juste, avec notamment la négociation sur l'employabilité de nos seniors, sur la pénibilité des emplois, et de façon tout à fait calme et sereine. Derrière, on sait également que notre société connaît toutes ces difficultés-là, et alors, entamer ce genre de négociation, ça peut paraître difficile, mais vous savez, le fait de s'engager politiquement pour des idées, c'est aussi se confronter à des difficultés qu'on connaissait au préalable.
Ergun Toparslan, une marche contre la réforme des retraites, la baisse du pouvoir d'achat et l'inaction climatique est organisée par la NUPES, notamment Jean-Luc Mélenchon et les autres leaders de gauche. Ce sera le 16 octobre. Quel regard portez-vous sur la démarche de l'opposition de gauche, puisque Territoire de Progrès est un mouvement de gauche qui soutient le président Macron ?
Tout à fait. D'ailleurs, je ne suis pas certain que toute la gauche se rejoigne ce mouvement, cet appel de Jean-Luc Mélenchon, qui a été d'ailleurs encore une fois très maladroit, comme l'ensemble de ses communications lors de ces derniers jours, avec un parallèle assez douteux avec la révolution de 1789. On n'est absolument pas dans la même situation. Mais derrière, dans notre pays, évidemment, le droit de manifester est important. Moi, ce que j'aurais attendu de la NUPES et des députés de gauche, c'est qu'ils soient force de proposition. Mais aujourd'hui, on les entend uniquement dans des situations qui concernent la vie privée de leurs députés. La réalité, c'est que la gauche ne répond encore une fois pas présent aux enjeux de notre époque, et c'est pour ça que nous, en tant que sociaux-démocrates, anciennement progressistes maintenant, on s'est engagé auprès du président de la République pour faire tenir, sentir cette sensibilité-là. Aujourd'hui, le ministre du Travail qui fait la réforme des retraites, Olivier Dussopt, est issu du Parti Socialiste et président de Territoire de Progrès. On a un discours, une méthode avec nos syndicats qui répondent présents, eux, pour le coup, qui sont à la table des négociations. Après, il est également normal, évidemment, que certains d'entre eux puissent manifester et donc faire entendre cela. Mais la réalité, c'est que la concrétisation politique en termes de propositions et d'offres n'existe pas du tout à la NUPES. Et la NUPES décroche franchement des aspirations, on va dire, des classes les plus modestes de notre pays.
Ergun Toparslan, le Conseil de la Refondation a été installé par le président de la République, un outil de démocratie participative. Est-ce que c'est de la pure communication comme l'affirme l'opposition, ou bien ce CNR pourra faire des propositions concrètes qui aboutiront à des réformes ?
Le président de la République l'a dit, venez participer, faites vos propositions concrètement. On voit, comme ce qu'on disait tout à l'heure, c'est qu'on a une superposition de nombreuses crises. notamment la crise démocratique, qui fait que la participation est très faible aux élections, notamment aux élections des scrutins locaux. Et on voit aujourd'hui, quand on parle de plan de sobriété, on l'a fait il y a quelques instants, avec les collectivités territoriales, on est là face à nous avec des maires, des conseils départementaux et autres qui ont été élus avec des participations entre 15 et 20%. C'est évidemment pas du tout acceptable, donc on doit engager une démarche de refondation. Maintenant, celle-ci, elle est ouverte à tout le monde. Après, de là à la mépriser, je pense que c'est jamais bon. Maintenant, c'est collectivement qu'on a à relever ce défi-là, mais il faut pas perdre de vue que les instabilités, y compris au niveau mondial, attisent les aspirations, on va dire, la motivation des populistes. Et ceux qui arrivent tout le temps au pouvoir, ceux qui profitent de cela en créant justement cette situation de chaos, cette politique de la chaise vide, et on voit un peu partout des populistes fleurir. Sauf que ça ne donne jamais de résultat. Après Trump aux États-Unis, ça s'est très très mal passé. On voit la situation italienne, ça a encore été une non-issue. Donc je comprends que ça ne me surprend pas que les oppositions qui se sont polarisées un peu vers les extrêmes, vers le populisme, ne rejoignent pas cette démarche-là, mais je crois aussi à l'intelligence collective d'une très grande majorité de nos concitoyens et une participation active à cette démarche-là.
Ergun Toparslan, le budget pour le climat a augmenté cette année pour répondre au sous-investissement de la France dans la production d'énergie décarbonée. Est-on entré véritablement dans une nouvelle phase de la lutte contre le réchauffement climatique ?
En réalité, on était déjà rentré avec le plan France Relance où 30% des fonds étaient fléchés vers les énergies renouvelables et l'isolation des bâtiments. On a, lors du dernier quinquennat, un bilan qu'on a peut-être mal défendu d'un point de vue écologique, notamment sur MaPrimeRénov' avec 750 000 logements qui ont été rénovés en fin d'année. Est-ce suffisant ? Évidemment que non, au vu des enjeux et au vu de l'alerte que nous remontent tous les experts. Mais cette mutation, cette crise écologique et environnementale, elle nous est imposée. Personne ne peut s'en échapper. D'ailleurs, elle appartient à aucune famille politique en réalité. Et maintenant, il y a des divergences et il y a une réalité aussi qu'on propose. Et l'engagement du président de la République et du gouvernement à renationaliser EDF, à s'engager sur la construction des nouveaux EPR, va dans ce sens-là. Et on n'arrive pas à avoir de débat politique serein là-dessus. C'est-à-dire, quelle est l'alternative que nous proposent les oppositions ? On peut très bien être contre la construction de nouvelles centrales nucléaires. Et la réalité, c'est que d'un point de vue démographique, et la consommation d'énergie qui est prévisible sur les prochaines années va nous pousser à aller vers cela. Et là, on est en face à un blocage démagogique, idéologique, avec d'un côté le camp de la raison et de l'autre le camp de l'idéologie qui nous impose un antinucléarisme assez primaire.
Alors, le week-end a été marqué par le voyage d'Elisabeth Borne en Algérie. Ce voyage marque-t-il la concrétisation de l'amélioration des relations entre Paris et Alger ?
Oui, on a beaucoup reproché au président de la République d'avoir fait une visite en Algérie qui était simplement de la communication. Mais ce qu'on constate, c'est quelques semaines après, il y a 16 ministres qui se déplacent en Algérie, ce qui n'est pas rien. C'est une coopération renforcée sur tous les sujets. D'ailleurs, on a une réunion intergouvernementale, on parle d'économie, de culture. Les ponts entre les deux pays sont très nombreux. On peut que s'en réjouir, mais là, ce qui a été annoncé par le président de la République il y a quelques semaines, a été mise en place et mise en œuvre. On s'est uniquement resté bloqué sur la visite de d'ICO Maghreb, mais la réalité, c'est que la coopération est de plus en plus importante. Et c'est un fait tout à fait historique, avoir autant de ministres qui se déplacent en Algérie, c'est très important. Et dans le contexte géopolitique qu'on peut connaître dans l'Europe de l'Est, on voit que l'enjeu méditerranéen est de plus en plus important et que on a tout intérêt à bien s'entendre avec les pays du Maghreb qui seraient eux-mêmes stables dans le contexte international.
Alors, une loi sur l'asile et l'immigration est prévue en 2023. Emmanuel Macron a évoqué la nécessité de mieux répartir l'immigration sur le territoire national. Qu'attendez-vous de cette loi ? Pourquoi une nouvelle loi est-elle nécessaire ?
Parce que les Français ont émis quelques interrogations par rapport à ça et que concrètement, on a laissé ce terrain uniquement à des réponses qui sont xénophobes par l'extrême droite. Mais la réalité, c'est qu'on peut avoir une approche, une réflexion, une planification par rapport à ça, et c'est pas un gros mot de le dire. On l'a également fait par rapport à la planification écologique, et cette réflexion, elle n'a rien de mauvais. De façon globale, avoir un débat, c'est pas mauvais. Et l'idée, c'est qu'à un moment donné, qu'on prenne conscience aussi que l'extrême droite, sans rien proposer sur les sujets, uniquement en attisant quelques prêt-à-penser et quelques émotions, a réussi à faire son nid de façon très importante. Il ne faut pas perdre de vue le contexte de la réélection d'Emmanuel Macron. on constate qu'il y a des vraies fractures entre la France urbaine et la France rurale. L'idée aussi, c'est de créer du lien, faire en sorte que la réalité que vivent certains de nos Français, nos concitoyens, puisse être partagée et que s'il y a des bons côtés de l'immigration, que certains puissent le voir, le ressentir et le constater. C'est ce que nous, on pense également. Aujourd'hui, on ne peut pas se satisfaire d'avoir autant de députés RN qui arrivent avec des non-campagnes à être élus et uniquement sur des peurs qui n'arrivent pas à maîtriser. On a eu le phénomène d'Éric Zemmour également qui, pendant plusieurs semaines, toute la campagne, a pointé du doigt les musulmans, les étrangers, avec un amalgame très douteux, immigration, insécurité. S'il y a des sujets, posons-les, débattons-en et essayons de trouver des solutions.
Vous parlez du Rassemblement National, Ergun Toparslan. Il y a quelques jours ont eu lieu les 50 ans du Front National, devenu le RN. Un anniversaire qui a eu lieu alors que le RN a 89 députés à l'Assemblée. Est-ce que ce parti a changé avec l'arrivée de Marine Le Pen à la tête de ce parti?
Nous, on pense que non, c'est ce qu'on dit. Après, ils ont changé de leur communication. Il a changé parce qu'il a eu beaucoup de députés, que les Français ont oublié les origines de ce parti. Il a changé de nom, mais en réalité, il n'a pas changé de statut. Aujourd'hui, les statuts du Rassemblement National, ce sont les statuts de Bousquet, donc un collabo. Donc aujourd'hui, où est-ce qu'on va avec cette démarche de dédiabolisation du Rassemblement National? La réalité, c'est que derrière la façade, derrière les quelques cravates qu'ils sont obligés de mettre à l'Assemblée Nationale, les idées, elles sont tout aussi nauséabondes. Donc cette banalisation, on ne l'accepte pas, on ne la tolère pas. On ne pense pas qu'une réponse qui est également populiste à gauche sera la bonne réponse, parce que le populisme fait ni du populisme, et quand on le dit tout le temps, quand le rouge et le brun se mélangent, c'est toujours le brun qui l'emporte. On veut porter nos valeurs républicaines face au Rassemblement National, même s'il a plus de députés, son idéologie reste tout aussi dangereuse et nauséabonde. Et on veut pas d'un accident démocratique sur les prochaines élections dans notre pays. Et pour notre génération, c'est un engagement très fort et qui dépasse également l'engagement du parti présidentiel de Renaissance, qui fait qu'aujourd'hui, on doit tous finir dans cette bataille-là et ne pas accepter, il n'y a pas de fatalisme à l'extrême droite dans notre pays. Et c'est pas parce qu'il y a un nouveau logo, un nouveau nom, que ça change quelque chose. C'est le parti qui a été créé par des collabos, par d'anciens nazis, et dont les statuts sont toujours signés par Bousquet. La réalité, c'est que tous les pays qui n'ont pas réussi à relever les défis sociétaux, économiques, environnementaux, tout ce dont on a parlé tout à l'heure, à un moment ou à un autre, face à la pauvreté grandissante, le populisme est une réponse très simple, très basique, et dans nos démocraties, ça peut marcher, ça a marché. Donc nous, on a une conscience historique, on a la connaissance historique qui nous fait dire que l'enchaînement de crises crée toujours de la peur, et les émotions qui vont avec se retrouvent facilement derrière un vote extrême. Mais on sait que l'extrême droite aujourd'hui arrive à tenir des discours sans que ça choque beaucoup de monde. Il y a des discours qui étaient inacceptables il y a quelques années, il y a quelques mois, et qui arrivent très facilement sur les bancs de l'Assemblée nationale, les personnes qui ont tenu ces discours-là. Et donc, face à ce risque-là, on décide de ne pas être fataliste et de le combattre. Ça nécessite plus de travail parce que c'est plus compliqué, on est dans le camp de la raison, ça nécessite aussi des résultats, on se doit d'être efficace, on se doit d'avoir des résultats qui puissent être ressentis, y compris par notre population. C'est un peu plus dur, c'est un peu plus laborieux, mais c'est le chemin qu'on a accepté parce qu'on pense que c'est le chemin qui est juste.
Merci Ergun Toparslan. Je rappelle que vous êtes vice-président et porte-parole de Territoires de Progrès. Bonsoir.
Bonsoir à tous.
C'était Pluriel, une émission hebdomadaire présentée par Loïc Barrière.